بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Aujourd'hui, on va s'intéresser toujours dans les annulatifs du jeûne. On va s'intéresser au statut du jeûneur qui a des rapports intimes pendant le mois de Ramadan et évidemment en particulier pendant les journées du mois de Ramadan. Il y a un texte principal qui est l'objet des divergences et qui parle du statut de cette personne, le jeûneur qui a eu un rapport intime avec son épouse pendant la journée de Ramadan. Alors ce texte est un hadith narré par le compagnon Abu Huraira, dans lequel il nous dit « Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam » un homme est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam « faqala halaktu ya rasulallah » et il a dit « j'ai péri au messager d'Allah »« qala wa ma ahlakak » et qu'est-ce qui t'a fait périr ? Il a dit « waqa'tu ala imra'ati fi ramadan » j'ai eu un rapport sexuel avec mon épouse pendant ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan » هل تجد ما تعتق رقبة trouves-tu de quoi affranchir un esclave? Il a dit non. Ensuite, le professeur Hassan lui a dit, es-tu capable de jeûner 2 mois en suivant? Il a dit non. Es-tu capable, lui a dit ensuite le professeur Hassan, de nourrir 60 pauvres? Il a dit non. Et là, le professeur Asselam s'est assis, ou plutôt l'homme s'est assis, et on a ramené au prophète Asselam un panier de dattes, et le prophète Asselam a dit à l'homme, Tassaddaq bihada, donne-le, fais l'aumône de ce panier de dattes en guise d'expiation. Et l'homme a dit, est-ce que je dois l'offrir à plus pauvre que nous, parce qu'il n'y a pas, entre les deux plaines de Médine, une maison, un foyer, qui est autant dans le besoin que mon foyer. Et le professeur Asselam a ri jusqu'à ce qu'on a vu ses molaires, et il a dit, « Idhhab fa'at'imhu ahlak, va et offre-le à ta famille, à ton foyer. » Ce hadith est rapporté dans les deux authentiques, il est aussi rapporté dans d'autres recueils de hadith. Et dans la version de Ibn Majah et d'Abu Daoud, on rajoute « Wasum yawman makanahu » et « jeûne un jour en remplacement ». Ce texte ne dit pas clairement si c'était volontaire ou pas. C'est-à-dire que l'homme vient et il dit « j'ai péri ». Pourquoi tu as péri ? Parce que j'ai eu un rapport sexuel avec mon épouse pendant Ramadan. Et donc ça cause ma perte, c'est dans ce sens-là qu'il dit j'ai péri. Donc on ne sait pas au final, parce que nous on a besoin de savoir, est-ce que l'expiation pour se faire pardonner d'avoir eu un rapport intime avec son épouse, est-ce qu'elle concerne uniquement celui qui va le faire volontairement, ou elle peut éventuellement concerner celui qui va le faire par omission et par oubli? Alors pour répondre à ça, deux choses. La majorité des savants considèrent que c'est uniquement celui qui le fait volontairement. Celui qui a un rapport intime volontaire, il sait que c'est interdit et il sait qu'il est en train de jeûner, il l'a pas oublié et il a un rapport intime avec son épouse. Celui-là, il est concerné par le fait, le qada et le kaffara. Le qada, le fait de rattraper le jour qu'il a annulé par cet acte. Et le kafara, l'expiation, c'est-à-dire ce que nous est dit dans le hadith, affranchissement d'un esclave, ou jeûner 2 mois consécutifs, ou nourrir 60 pauvres. Ils nous disent que ça concerne celui qui l'a fait volontairement, parce qu'en fait, ils disent, quand l'homme vient et qu'il dit, waqa'tu, quand l'homme vient et il dit, ahlakto, ou plutôt halakto, j'ai péri, ça sous-entend pour la majorité des savants que C'est pas possible qu'il l'ait fait par omission. Il est en train de dire halaktu, j'ai péri. C'est-à-dire, j'ai causé moi-même ma propre perte. C'est-à-dire, je l'ai fait consciemment. Je savais que je n'avais pas à faire ça et je l'ai fait. Alors que s'il l'avait fait par oubli, il aurait clairement stipulé, expliqué au professeur sallam, j'ai eu un rapport intime, mais j'ai oublié que je jeûnais. Qu'en est-il de mon statut? Deuxième chose, c'est que la majorité de savants nous disent on a du mal à penser que l'oubli peut arriver dans ce genre de situation. Parce qu'au pire des cas, une personne qui oublie, il va avoir un rapport intime et il oublie qu'il est en état de jeûne, c'est pas comme le fait de manger et de boire par oubli. C'est pas ça, c'est un réflexe, ça nous arrive très régulièrement pendant la journée de manger et de boire. Si on a une soif, si on a faim, si on voit quelque chose sur la table et qu'on a envie de grignoter, on va le prendre sans réfléchir. Alors qu'avoir un rapport intime, ça demande une certaine réflexion, une certaine attention. C'est pas juste par réflexe comme on pourrait le faire par omission pour manger et boire. Donc c'est difficile qu'une personne oublie. Ça pourrait arriver, mais dans des rares cas. Et en plus, il faut ajouter qu'un rapport intime, ça se fait à deux, l'époux et l'épouse. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils soient deux à oublier au même moment. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, s'il arrive vraiment par oubli, ça va être extrêmement rare. Donc pour ces deux raisons, la majorité des savants considèrent que ce texte ne concerne que celui qui l'a fait volontairement. Donc la majorité des savants utilisent ce hadith pour indiquer que celui qui a eu un rapport intime avec son épouse pendant Ramadan, volontairement, il doit évidemment rattraper son jour et il doit la kafara, donc rattraper le jour et expier la kafara, soit donc on a dit affranchir un esclave, soit jeûner 2 mois consécutifs, soit nourrir 60 pauvres. Et celui qui l'a fait par oubli, pour cette majorité de savants, il n'est pas concerné par la kafara, il n'est pas concerné par l'expiation. Et ça, quand on dit la majorité des savants, en fait, c'est l'avis des hanafites, des shafi'ites, c'est l'avis de l'imam Hassan al-Basri, c'est l'avis de Mujahid, de Ishaq, Ibn Rahawayh, de Abu Thawr et d'Ibn al-Mundhir. Ensuite, on a certains malikites et on a l'imam Ahmad qui, eux, nous disent que la kafara, l'expiation, est aussi pour celui qui le fait par oubli. Elle est aussi pour celui qui le fait par oubli. Quant à la plupart des malikites, en réalité, ils disent que s'il le fait par oubli, il doit uniquement rattraper son jour de jeûne. Naam. Donc, ensuite, l'autre question à se poser, donc ici, avant d'aller à l'autre question à se poser, on comprend que la majorité des savants font une distinction entre celui qui va avoir un rapport intime volontairement, en connaissance de cause, en sachant que c'est interdit, va avoir un rapport intime pendant la journée du mois du Ramadan, en étant conscient, pas par oubli. La majorité des savants disent cette personne-là, en plus de rattraper son jour, il doit expier en jeûnant 2 mois consécutifs, enfin en affranchissant un esclave, mais ça n'existe plus. Donc, soit en jeûnant 2 mois consécutifs, soit en nourrissant 60 pauvres. On va voir si ce qu'il a le choix de choisir entre les deux, ou il doit d'abord essayer de jeûner 2 mois, et s'il n'a pas la capacité de jeûner 2 mois, il passe au fait de nourrir 60 pauvres. En tout cas, ça c'est l'avis de la majorité, et c'est ce qui apparaît le plus probable selon le texte qu'on a cité tout à l'heure. Maintenant, les savants ils se sont posé la question sur doit-il cette kafara, cette expiation, est-ce qu'il a le choix entre ces trois choses-là, c'est-à-dire entre affranchir un esclave ou jeûner 2 mois consécutifs ou nourrir 60 pauvres, est-ce qu'il a le choix entre ces trois choses-là, il choisit? Ou alors non, c'est un ordre prioritaire, c'est-à-dire d'abord, il a l'obligation de affranchir un esclave. S'il n'en a pas les moyens ou s'il ne peut pas, comme nous à notre époque, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a plus d'esclaves qu'on pourrait affranchir, il passe à la deuxième. La deuxième, c'est quoi? C'est jeûner 2 mois consécutifs. Si pour une raison ou pour une autre, il est incapable de le faire, alors, il passe à la troisième qui est nourrir 60 pauvres. Ici, les Hanafites, Shafi'ites et Hanbalites indiquent que la kafara, elle est dans cet ordre prioritaire. Donc, on enlève l'esclave à affranchir puisque ça n'existe plus aujourd'hui. Il a l'obligation de jeûner 2 mois consécutifs. S'il n'en a pas la capacité pour une raison valable, alors à ce moment-là seulement, il peut éventuellement nourrir 60 pauvres. Ça, c'est l'avis de la majorité, les Hanafites, Shafi'ites et Hanbalites. Quant aux Malikites, qui sont minoritaires sur cette question, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, en fait, il a le choix entre ces trois choses-là. Il choisit ce qu'il veut, et en ayant fait une seule de ces trois choses-là, il aura à expier son erreur, c'est-à-dire d'avoir commis ou d'avoir eu un rapport intime avec son épouse pendant la journée de Ramadan. Autre question à se poser sur ce sujet, dans le cas de la femme, est-ce que la femme, elle est aussi concernée par la kafara, par l'expiation? Les Shafi'ites, et c'est aussi une des deux versions attribuées à l'imam Ahmad, nous disent que qu'une seule kafara, une seule expiation pour le couple suffit. C'est pas chacun qui doit donner son expiation. Une seule expiation. Et ils en veulent pour preuve que lorsque l'homme est venu expliquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a fait, il lui a pas dit une kafara, tu dois la donner toi et aussi ta femme. Donc, à partir de ce moment, ces savants-là considèrent que la femme n'a pas à payer de kafara. C'est uniquement l'homme qui paye la kafara, yani une kafara par couple. Ça, c'est l'avis de Shafi'i et une des deux versions qui sont attribuées à l'imam Ahmad. Quant à la majorité des savants, c'est l'imam Malik, Abu Hanifa, et aussi une des deux versions, et c'est la plus réputée qui a été attribuée à l'imam Ahmad, on nous dit qu'elle aussi, elle doit payer la kafara. Et dernière question concernant ce sujet, si la femme a été contrainte. Si elle a été contrainte, la majorité des savants considèrent qu'elle ne doit rien puisqu'elle a été contrainte au rapport intime pendant la journée de Ramadan. Autre chose, c'est la masturbation ou tout ce qui va provoquer l'éjaculation. Tout ce qui provoquera l'éjaculation par plaisir. Donc ça peut être la masturbation, ça peut être le fait de regarder son épouse, ça peut être des caresses, peu importe. Toutes ces raisons-là, la haya afid-din, pas de pudeur en religion, on est là pour apprendre notre religion. Est-ce que dans le cas où quelqu'un qui provoque la sortie de sperme, donc l'éjaculation, et que c'est par plaisir, est-ce que cette personne-là est en état de conscience. On ne parle pas de celui qui le fait par rêve. Celui qui le fait par rêve, il est en train de dormir, il n'est pas conscient, donc son jeûne n'est pas annulé. On parle de celui qui le fait en état d'éveil, en état de conscience. Est-ce que son jeûne est annulé ou non? Ici, on a, que, on a certains savants qui disent que ça n'annule pas. Le jeûne et la majorité des savants qui disent que le jeûne est annulé. Ceux qui disent que ça n'annule pas, c'est certains hanafites comme Abou Bakr ibn al-Iskaf ou Abou al-Qasim ou comme parmi ou le littéraliste Ibn Hazm ou parmi les contemporains l'Albani. Ces savants-là considéraient que celui qui provoque l'éjaculation en état de conscience, volontairement et par masturbation, yani, ou par autre moyen, cette personne, son jeûne n'est pas annulé parce qu'selon eux, il n'y a aucune preuve pour dire que son jeûne est annulé. Quant à la majorité des savants, tous les autres savants qui sont majoritaires sur cette question disent que le jeûne est annulé. Par contre, cette majorité diverge entre eux. Donc ils disent son jeûne est annulé. Donc évidemment, il doit rattraper son jour. Mais est-ce qu'en plus de rattraper son jour, il doit une kafara, il doit payer l'expiation comme celui qui a eu un rapport intime avec son épouse? Alors ici, la plupart d'entre eux disent il doit juste rattraper, sans kafara. Mais les malikites, ils disent il doit rattraper et en plus, il doit la kafara, l'expiation, c'est-à-dire soit jeûner 2 mois consécutifs, soit nourrir 60 pauvres. Toute dernière question concernant ce sujet, c'est s'il y a un rapport intime complet. Sans éjaculation, sans sortie de sperme. C'est quoi un rapport intime complet? Comme on a dit, la haya afid-din, pas de pudeur en religion, c'est pour apprendre. S'il y a un rapport intime complet, ça veut dire s'il y a pénétration. À partir du moment où il y a pénétration, même s'il n'y a pas eu sortie de sperme, alors non seulement le jeûne est annulé, et en plus, il y a la kafara à payer ou à donner ou à pratiquer, donc soit les deux mois de jeûne consécutif, soit les 60 pauvres à nourrir. Naam. Toute dernière question, C'est la hijama, et fait la haqiqa, on ne va pas trop s'attarder sur cette question, même si les savants, comme toutes les questions qu'on a vues, ils s'attardent aussi sur cette question beaucoup. En tous les cas, pour résumer la question de la hijama, donc comme vous savez, la hijama, c'est l'épuration du sang qui est un remède préventif aux maladies. La hijama, les savants ont divergé parce qu'en fait, il y a des hadiths qui nous disent que aftar al-hajim ou al-mahjoum, celui qui fait la hijama, et celui qui subit la hijama, donc celui qui fait la hijama à l'autre, qui pratique, qui est le praticien, qui pratique cet acte, et celui qui l'a subi, les deux ont rompu leur jeûne. C'est ce que le hadith nous dit. Par contre, on a d'autres hadiths qui nous disent, le professeur sallam, il a fait la hijama alors qu'il était en état de jeûne. Et on a d'autres versions aussi. Et en fait, pour résumer cette question, il faut savoir que toutes les versions sont à controverse et on a discuté sur ces versions. Sur la plupart des versions qui parlent de la hijama en état de jeûne, les savants du hadith ont divergé entre eux. En tous les cas, on a une sorte de contradiction entre des hadiths qui nous disent que le professeur sallam l'a fait en état de jeûne, et d'autres qui nous disent que le professeur sallam a dit que si on fait la hijama, notre jeûne est annulé, à la fois pour celui qui a fait la hijama et à la fois pour l'autre qui a pratiqué la hijama. En réalité, ici, pour conclure, et comme on a dit, on ne va pas passer trop de temps sur cette question, l'avis qui apparaît le plus probable, c'est l'avis de la majorité des savants, et l'avis qui a été défendu par Shawkani dans son ouvrage Nail Awtar, où il nous dit qu'en réalité, les hadiths qui nous disent que les deux ont annulé leur jeûne, à la fois celui qui pratique le jeûne et à la fois celui qui pratique la hijama et l'autre celui qui l'a subi, en réalité, ça ne concerne. Il dit d'abord, ce hadith est sujet à controverse puisque beaucoup l'ont affaibli. Et si on admet qu'il est authentique, en réalité, c'est dans le sens, il faut comprendre ce hadith, dans le sens où celui qui va faire une hijama ou qui va subir la hijama, il prend le risque que ça va le fatiguer et qu'il va être amené à devoir rompre son jeûne. Donc c'est dans ce sens-là, mais c'est pas dans le sens où, puisqu'il a fait une hijama, son jeûne n'est pas valide. والله أعلم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك